Quand on regarde ce qu'on a vu aujourd'hui dans Matthieu 5, 6 et 7, on peut retrouver dans l'évangile selon Luc au chapitre 6 quelque chose qui y ressemble. Et en fait, je vous en supplie, quand vous lirez l'évangile selon Luc, ne sautez pas le chapitre 6 en vous disant on l'a vu l'autre jour aux études. C'est pas vrai. Luc 6, ce n'est pas Matthieu 5 à 7. Mais par contre, ces deux enseignements terminent de la même manière. Il est question de l'arbre et de son fruit, il est question de la maison sur le sable et la maison sur le roc. C'est bien le même esprit qui est donné, mais c'est un éclairage différent qui est présenté. Alors on a vu dans Matthieu, la fin, le dernier verset, Pierre nous a parlé ce matin de ce passage, chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et dans Luc, il est dit ceci, chapitre 6, verset 36, soyez donc miséricordieux comme aussi votre Père est miséricordieux. Je prends simplement ça pour montrer l'éclairage différent. Un, c'est sur la justice et une sorte de sainteté, de perfection, et de l'autre, c'est la miséricorde. Mais c'est les deux, les caractères de notre Père qui sont là. Et puis, une autre chose encore, dans Luc, il y a un autre aspect, au verset 40, Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son maître. Alors, être miséricordieux comme notre Père, être comme notre maître, quelqu'un qui est accompli, quelqu'un qui marche vraiment, qui ressemble à son maître. C'est simplement deux petits aspects de ces deux chapitres. Et alors j'aimerais encore insister sur une chose. Dans Matthieu, il est dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et dans l'épître de Pierre, Pierre nous en a parlé, il est dit soyez saints comme je suis saint, c'est ça ? Car je suis saint. Ça veut dire que ce que Dieu nous demande, c'est de lui ressembler. Il ne nous demande pas l'impossible, mais il nous demande, puisque c'est notre Père, puisque nous sommes ses enfants, que nous manifestions les caractères de notre Père, que nous les ressemblions.
Pratique pour la réalisation personnelle de ces passages dans la vie. Si nous lisons ces chapitres tranquillement en pensant au Seigneur, on trouvera bien des récits dans lesquels on voit le Seigneur vivre ces choses-là réellement. Une saveur dans la vie. Quand on se trouve face à une circonstance particulière, c'est de penser justement au comportement du Seigneur et, comme vient de le dire Jean-Luc, d'essayer d'avoir un comportement semblable. Pour ça, il faut une habitude de vie avec le Seigneur, une habitude de communion, d'échange avec lui. Parce que quand on se trouve dans un moment comme ceci, où on se dit, tiens, le Seigneur a vécu quelque chose de semblable, et immédiatement, nous réalisons que nous n'avons pas en nous la ressource pour vivre les choses de la même manière. Mais on peut simplement lui dire, Seigneur, je pense à toi, aide-moi à te ressembler. Si ainsi là, j'ajoute une autre petite chose. Vous avez tous entendu dans les différentes présentations, en particulier dans la première parce que c'était direct dans le texte, que la pensée de Dieu est de sortir du contexte légal et de dépasser la loi. On a entendu plusieurs fois ce matin ce « mets-moi ». Le Seigneur rappelle les choses qui étaient anciennes, qui étaient relatives à la loi et à un comportement selon ce que Dieu attendait de son peuple. Et puis il dit maintenant, il faut aller plus loin. Donc vous avez remarqué, et il faut bien que nous l'ayons en mémoire, cette insistance divine qui nous dit, s'il vous plaît, pas seulement le comportement visible, mais une réalité intérieure. Il faudrait que nous ayons en nous profondément quelque chose qui vient absolument de Dieu et qui nous conduise, pour le Seigneur, comme on le trouve en Colossiens 3, à vivre les choses en dépassant ce qui correspond à ce que Dieu peut demander en donnant un certain nombre de règles. Une source profonde dans laquelle le Seigneur a une grande place.
Je voudrais revenir sur la notion du bonheur, puisque c'est comme cela que commence finalement ce merveilleux sermon sur la montagne, bienheureux les pauvres en esprit. Cette notion du bonheur, Dieu nous la réserve, et la conclusion de ce sermon sur la montagne, c'est de mettre en pratique les paroles. L'homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Le roc inébranlable, le rocher des siècles, le Seigneur Jésus, la relation personnelle privilégiée avec Jésus, le Sauveur, le Seigneur, mais également le roc inébranlable de la parole de Dieu elle-même, qui, grâce à Dieu, a traversé les siècles sans aucune altération. Il est intéressant de constater que le tout premier mot du livre des psaumes, c'est « bienheureux » aussi. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point et tout ce qu'il fait prospère. Voilà la raison du bonheur. Voilà le moteur qui doit nous animer, c'est de regarder dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit, et surtout de la mettre en pratique. Par contre, il ne convient pas de marcher dans le conseil des méchants, de se tenir dans le chemin des pécheurs et de s'asseoir au siège des moqueurs. Et je repense un peu à ce verset que Christophe nous a dépeint très bien tout à l'heure. « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Voilà, il y a des circonstances où il faut faire gaffe, il faut faire attention. Il y a des moqueurs, il y a des pécheurs. Il faut savoir à qui l'on s'adresse, dans quelles circonstances, à quel moment. Et je pense en particulier à un proverbe, au livre des Proverbes, ça a souvent été cité par les incroyants, par les moqueurs, pour essayer de dire que la parole était remplie de contradictions. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 26, il y a deux versets qui se suivent et qui semblent être en contradiction. Proverbe 26, verset 4. « Ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que toi aussi tu ne lui ressembles. » Et tout de suite après, répond au sot selon sa folie, de peur qu'il ne soit sage à ses propres yeux. Voilà, il y a des cas où il faut répondre, il y a des cas où il ne faut pas répondre. Nous avons les pierres précieuses, nous avons les perles célestes, il faut savoir où et quand nous pouvons les distribuer, les partager, mais en faisant très attention que si nous les donnons au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les mauvaises circonstances, ce que nous avons distribué peut nous déchirer. Je prends un exemple. Il a été cité tout à l'heure le cas d'un alcoolique.
Bien sûr, on ne présente pas, c'est de bon sens, la parole de Dieu à un alcoolique, mais quand bien même nous le ferions, on lui parlerait par exemple de l'amour de Dieu, de s'aimer les uns les autres. Il pourrait nous renvoyer la balle et nous dire tout de go, mais vous dites que vous m'aimez, vous ne me payez même pas une bouteille de whisky. Il nous déchire. Il nous déchire dans notre propre âme, avec nos propres paroles, avec la propre parole de Dieu. Donc, faisons attention, ce que nous avons entre les mains est saint, soyez saints, car moi je suis saint, l'apôtre Pierre nous l'a rappelé, et il faut parler du Seigneur, il faut évangéliser, il faut, comme le dit l'Ecclésiaste, jeter à la face des eaux, ne sachant ce qui reviendra, ne pas laisser sa main se reposer, mais lorsque nous voyons que nous sommes devant quelque chose qui pourrait nous revenir méchamment, se taire, ne pas répondre au saut.
On parlait de ces bienheureux que l'on trouve au début des béatitudes et aussi dans le psaume premier. On trouve un autre bienheureux. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt, dit le Seigneur, bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voilà un bienheureux qui arrive à la fin de la parole de Dieu. Et en quelque sorte, qui pourrait arriver aussi à la fin de ce sermon sur la montagne. Parce que garder la parole, c'est dans l'esprit des Écritures, c'est la mettre en pratique aussi. C'est pas seulement l'entendre, c'est l'écouter et la mettre en pratique. Eh bien, il y a une bénédiction particulière à mettre en pratique toute la parole. Parce que ce verset, je pense, d'Apocalypse ne s'applique pas simplement au livre de l'Apocalypse, mais sans doute à l'ensemble du livre, de la même façon qu'il est dit à la fin du chapitre 22, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre de l'Apocalypse, mais dans tout le livre de Dieu. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Donc, notre sort éternel, l'issue de notre conduite aussi comme chrétien, elle sera déterminée sur la façon dont nous aurons considéré ou pas les paroles du Seigneur. Si nous gardons ces paroles.
Si je comprends bien, tout à l'heure tu as parlé j'ai bien aimé l'image de mettre en vitrine les perles. Donc ça doit être plutôt une vitrine animée. Alors d'une force, c'est peut-être on l'a beaucoup entendu dire, mais autour de vous, dans votre entourage, certainement la majorité des gens n'ont jamais lu et ne liront jamais l'Évangile. Par contre, tous lisent votre vie. Et dans notre manière de vivre, nous pouvons illustrer ou non l'Évangile. Et dans un sens, l'enseignement de ce sermon sur la montagne nous donne des éléments pour être des gens qui illustrent l'Évangile. Par exemple, quand il est question de faire un mille, si quelqu'un te demande de faire un mille avec lui, faisant un autre, ou tendre l'autre joue, il peut être parfois dans une circonstance correcte de quelqu'un te demande quelque chose, tu le fais et tu te dis ça, j'ai fait mon ce qu'il fallait. Puisque j'ai fait juste, bon, c'est juste. Mais non, la notion que le Seigneur nous enseigne, c'est le deuxième mille, aller plus loin. Et c'est ainsi, en allant plus loin, que que l'on illustre. L'armure complète de Dieu, il est question d'avoir les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Autrement dit, dans ta manière de vivre, chaque jour, tu vas introduire dans le cœur de celui qui te voit, tu vas préparer la réception de l'évangile. Si tu te disputes sans arrêt avec ton voisin, il y a peu de chances qu'il écoute un jour ce que tu pourras lui dire. Et on peut raconter des histoires, on a entendu des histoires de frères ou de sœurs qui, ayant des difficultés avec un voisin qui ne connaissait pas le Seigneur, qui lâche. Il y avait un frère, c'est sûr, à Bordeaux. Quand vous êtes à Bordeaux, il y a des jardins derrière les maisons, les façades sont dans la rue, il y a quand même des jardins derrière. C'était dans les années. Je ne sais pas si j'étais né, en tout cas c'était juste, mais il avait un poulailler. Son voisin avait un poulailler et lui il avait des salades et différents légumes dans son jardin. Et puis le voisin il ne gardait pas bien ses poules et elle venait se délecter des salades cultivées par le frère. Alors le frère dit un jour au voisin, écoutez, il faudrait quand même. Vous fermiez mieux vos poules, mettez un grillage, débrouillez-vous, quoi. L'autre faisait absolument rien. Et puis un jour, il est allé le voir, il dit, écoutez, j'ai bien compris. Au fond, c'est vrai, vos poules, elles ont besoin de plus de place. Alors on va enlever la clôture et puis elles auront toute la place des deux jardins pour pouvoir manger facilement. Alors le voisin qui savait qu'il avait tort a été un peu interloqué par le deuxième mille que notre frère faisait. Et ça a été l'occasion de lui parler du Seigneur. Et peut-être que j'embellis l'histoire, mais je crois savoir que plus tard, le voisin est venu au Seigneur.
Je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai une question à poser. Alors peut-être qu'elle est aussi dans les questions. Est-ce que c'est un péché que de s'inquiéter? Alors on est dans un contexte ici. C'est vrai qu'au verset 25, il est dit « C'est pourquoi ?» Donc, semble-t-il que... On est esclave de l'argent, hein, des richesses, ou on est esclave où on s'attache à Dieu. Et on peut comprendre ce qui est dit après. Mais souvent, on pense à être en souci, s'inquiéter. Et je me pose la question, qui permet une situation où j'ai des raisons de m'inquiéter? Une maladie, un arrêt de travail, problème, tout ce qui fait la vie d'aujourd'hui. Qui est-ce qui envoie ça? Alors est-ce que, face à une situation qui me met complètement dans le désarroi, ou pour moi-même ou pour ma famille, alors je pose la question, est-ce que c'est un péché que de s'inquiéter? Et à partir de là, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Je me souviens que le peuple d'Israël a été mis dans le désert, et c'est vrai que c'était le moyen pour lui de rechercher Dieu, justement. Et je voudrais juste lire dans Deutéronome 8. Alors, je ne sais pas si je pose la question et je donne la réponse à la fois, je ne sais pas, mais c'était pour y réfléchir un petit peu quand même. Dans Deutéronome 8, verset 2, « Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher, ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. Donc, semble-t-il, c'est une école pour grandir. C'est là qu'il y a ce texte du verset 3 où l'homme ne vivra pas, vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, pas seulement de pain. Et puis, un peu plus loin dans ce même texte, au verset 15, même 14, alors ton cœur ne s'élève, que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans le désert, grand et terrible, désert de serpents brûlants, de scorpions, une terre aride où il n'y a point d'eau. Ça pourrait correspondre un petit peu à ce que certains d'entre nous peuvent vivre aujourd'hui. Qui a fait sortir pour toi de l'eau du roc dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères n'ont pas connue, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, pour te faire du bien à la fin. Et que tu ne dises dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de ratifier son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. Voilà, est-ce que l'inquiétude, le souci peut être aussi ce moyen, cette école de Dieu pour nous amener à le rechercher et puis à faire le tri, hein, et puis choisir le bon maître. Voilà.
Alors, l'inquiétude, bon, tu poses la question, si j'ai bien retenu ce que tu as dit au début, la question c'est, est-ce un péché d'avoir de l'inquiétude? Je ne sais pas répondre par oui ou par non. Et peut-être qu'en posant la question, tu ne voulais pas qu'on te réponde par oui ou par non. Je pense à l'exemple du Seigneur un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, le verset 37, la fin du verset, Matthieu 26, 37. Il commença à être attristé et fort angoissé. Alors, c'est pas le mot inquiétude, mais c'est angoisse. Il me semble que c'est au moins aussi fort quand même s'il y a des nuances. Je crois que ressentir le poids des circonstances difficiles n'est pas un péché. Et ça peut aller jusqu'à nous troubler tellement le mot angoisse est fort. Par contre, rester dans ses doutes, c'est peut-être là que serait le péché. Et dans l'exemple du Seigneur, il faut aller juste au verset suivant. Il s'en alla un peu plus avant, il tomba sur sa face priant et disant « Mon Père ». Il en a parlé à Dieu. Il se confie à son Dieu. Et aller vers Dieu pour lui dire « Ben, je suis inquiet, mais je t'en parle », me semble que c'est la démarche qui convient.
Il y a quelque chose qui domine un petit peu ces trois chapitres et qui correspond ici au début du paragraphe dans Matthieu 6 pour le verset 25. Qui servons-nous? Et je crois que c'est quelque chose qui s'apprend tous les jours et qu'il faut cultiver tous les jours. Parce que si vraiment nous servons le Seigneur, on entend par exemple, rien ne manque à ceux qui te craignent. Il envoie les siens qui vont connaître des difficultés, même sur le plan pratique. Et quand ils reviennent, il leur dit, mais quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, avez-vous manqué de quelque chose? De rien. Et beaucoup de passages de l'Ancien Testament mettent en évidence que quand on est véritablement avec l'Éternel, avec le Seigneur, avec Dieu, quand on est dans sa main, pour le servir là où il veut nous voir, ben, c'est lui qui porte toutes les choses. Je reste persuadé qu'il faut entrer dans ces choses-là et les approfondir en soi. Et on apprend progressivement, quand des difficultés se présentent, à lui dire, Seigneur, tu le sais. Tu veux m'apprendre quelque chose ? Je veux bien apprendre avec toi. Et là, il n'y a pas d'inquiétude. Dès qu'on veut porter les choses nous-mêmes, c'est quelque chose d'impossible. Dès qu'on veut circonscrire une situation difficile, on est débordé parce que nous sommes pleins de limites. Mais quand on est avec le Seigneur, quand on a le sentiment de vivre un moment qu'il veut que nous vivions avec lui, on n'est pas inquiet pour l'instant qui suit ou pour les conséquences de telle ou telle chose. Nul ne peut servir deux maîtres. Moi j'entends, en ce qui me concerne, avec ce début de paragraphe, bien dites-moi, qui servez-vous ? Si c'est moi je m'occupe de tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit, je m'occupe de tout. Vous allez trouver une circonstance difficile, je vais la gérer. Mais si nous regardons un peu à côté, si nous prenons des charges personnelles, si nous prenons une certaine distance du Seigneur, nous allons peut-être entrer dans un service qui ne sera pas complètement au Seigneur. Là, on va trouver l'inquiétude, les questions, les doutes, les difficultés, puis des choses qui vont nous écraser. Donc, pour ce qui me concerne, je crois que le contexte nous invite à bien réaliser et à approfondir toujours davantage le fait que nous sommes là, passant sur la terre, depuis que nous connaissons le Seigneur, pour aller avec lui à travers les circonstances, lui faire confiance, le laisser gérer les choses. Il me semble, c'est ce que je ressens en tout cas, très fortement, que là, il y a de moins en moins d'inquiétudes, de moins en moins de soucis. On réalise mieux des passages tels que la fin de Philippiens 3, par exemple, ne vous inquiétez de rien, ou encore passage de 1 Pierre, hein, rejetant sur lui tout votre souci, ou encore la fin de Matthieu 11, le fait que le Seigneur veut porter avec nous dès qu'il y a quelque chose de particulier à porter.
Ça n'empêche que ce n'est pas facile. Et puis ça dépend un peu des personnes, ça dépend des circonstances, ça dépend des moments. Et il me semble que quand on lit ce passage où le Seigneur, tu l'as souligné tout à l'heure, Élie, dit trois fois « Ne soyez pas en souci », je comprends ces trois fois comme s'il me disait « Jean-Luc, tu en as besoin ». Il me le répète. Il te le répète parce que tu as besoin de t'en rappeler, de t'appuyer sur ça. Et puis il t'invite. Il te dit... Il ne te dit pas, tu sais les oiseaux du ciel ? Non, observez les oiseaux du ciel. Prends du temps, regarde ce que Dieu fait. Et il dit, étudiez les lys des champs, prends du temps, regarde ce que Dieu fait. Et là, petit à petit, découvre Dieu à travers tout cela. Et peut-être que ce qui me soulage un peu, c'est de savoir que Dieu répond à la foi. Non pas à la grande foi, mais à la foi. Et c'est lui qui mesure de quelle manière je m'appuie sur lui ou pas, c'est pas moi qui m'inquiète pour savoir si je le fais assez. Quand Pierre coule, le Seigneur le retire et dit « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Il ne s'occupe pas de surhommes et de personnes extraordinaires. Il s'occupe de gens ordinaires comme moi. Et quand on lit, alors tu as parlé de Philippiens tout à l'heure, ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, mais en toute chose exposez vos requêtes par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Et souvent on s'arrête là, et ça ne me fait pas plaisir, parce que gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Pourquoi quand je suis en souci, je suis occupé de mon souci et je perds de vue le Seigneur? Et comment retrouver ce contact? Alors, pour les parents, là, les parents d'ados, tu n'es pas encore là, mais pour les parents d'ados, quel est celui ici qui ne s'est jamais réveillé la nuit et se faisant du souci pour son gamin ou sa fille ou son fils qui hein? Toi, tu as dû le faire. Hein? Okay? Et là, on tourne. Parce qu'on n'a pas la clé du problème.
un enfant qui on ne sait pas s'il va choisir le Seigneur. On voit que ça ne va pas, mais on ne sait pas. On n'a pas la clé du problème. C'est le Seigneur qui va agir. Alors nous, on est toujours prêts à dire « Seigneur, je te remets tout », mais on veut quand même guider ses mains au Seigneur. Et c'est difficile de lâcher les mains. Et là, tu es dans la nuit. Tu rêves. Tu rêves pas. Tu tournes en rond. Et comment tu peux sortir de là ? Exposez vos requêtes par des prières, des supplications. Et je crois que, vraiment, pour l'avoir vécu, le jour où on comprend que les actions de grâce, c'est pas dire « Seigneur, bravo, tu m'as répondu », c'est « Seigneur, tu m'as entendu ». Quand tu rends grâce, non pas une formule, mais tu t'apaises dans la main de ton Seigneur, alors là tu déposes ce souci, ce fardeau. Et à ce moment-là, il y a une chose qui se passe, la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées dans le Seigneur. Et au fond, tu retrouves cette paix, cette relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça que dans notre passage, c'est un autre aspect, c'est le même Seigneur qui nous dit « Ne soyez pas en souci. Regarde, arrête-toi, observe, étudie. » Et puis il me dit au milieu quelque chose d'extraordinaire. Il me dit « Votre Père Céleste sait. » Tu te crois tout seul dans ton truc ? Mais non, il sait. Et alors c'est vrai, il y a tout un exercice, il y a tout un cheminement. Et apprendre ce cheminement, si un jour vous croyez l'avoir complètement appris, probablement c'est la veille de la circonstance où vous aurez besoin de faire les classes supérieures, parce qu'on ne l'a pas encore appris complètement. On a toujours besoin de cultiver cette relation avec le Seigneur et cette confiance. Un jour, Paul dit ceci, nous avons été tellement... c'est dans la première épître, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 8. « Nous voulons pas, frères, vous laisser ignorer à propos de l'affliction qui nous est arrivée en Asie, que nous avons été excessivement chargés, au-delà de nos forces, au point que nous avons même désespéré de vivre. Mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Mais tellement difficile c'était trop. Mais là, apprendre à mettre sa confiance en Dieu qui a tout dans sa main, ça a été tellement difficile, excessivement chargé. Ça c'est... Il me semble que le Seigneur est bon parce qu'il nous donne dans ce passage aussi des éléments où gentiment il nous répète trois fois « Ne soyez pas en souci. »
Il y a donc une dizaine de questions anonymes qui ont été posées. Bon, j'ai vu ceux qui les ont posées, donc si vous voulez les noms. Hein. En plus sérieusement, si vos questions, il n'y a pas été répondu comme vous le souhaitiez, libre à vous d'intervenir ensuite. Donc une dizaine de questions, ça fait à peu près 5 minutes par question. Et je les donne dans l'ordre du sermon sur la montagne. La première question, c'est Matthieu 5, verset 19. Alors, je lis le verset. « Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Alors, la question à partir de ce verset, c'est « Devons-nous respecter la loi, y compris dans ses détails cérémoniels ?»
Détail cérémoniel, je suppose que c'est toute l'infrastructure lévitique qui est visée, je suppose. Je crois qu'il y a une part des choses à établir. beaucoup de sacrifices tels qu'ils étaient prescrits par Dieu dans l'Ancien Testament, réservés aux Lévites en particulier, n'ont plus d'objet d'être réalisés pour nous, chrétiens, gens de la nouvelle génération, la génération céleste, parce que nous savons que tous ces sacrifices, toutes ces lois sacrificielles et cérémonielles étaient liées en préfiguration de l'œuvre parfaite que le Seigneur Jésus allait réaliser à la croix. Donc pour nous, tous ces aspects-là de loi cérémonielle n'ont plus l'objet d'être mis en pratique techniquement parlant, si je puis dire, mais nous avons toujours à les spiritualiser et à les considérer au travers de ce que le Seigneur a réalisé pour notre salut éternel. Je ne sais pas si un frère a une autre pensée.
Par exemple, si quelqu'un a péché, est-ce qu'il faut qu'il aille chercher une brebis de son troupeau pour faire un sacrifice pour le péché aujourd'hui, pour être pardonné? La réponse est non. Et dans Hébreux 10, il est question la loi ayant l'ombre des bienvenirs et non l'image même des réalités, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ce qui s'approche. Et la suite du passage montre que l'œuvre du Seigneur Jésus est celle qui est l'accomplissement, si on peut dire, de tout ce qui était avant. Et il serait vraiment, j'ai posé la question tout à l'heure, il serait vraiment très curieux que, en prenant l'Ancien Testament, eh bien, si tu as commis un péché, Lévitique 2, non, je sais plus, 4 ou 5, à ce moment-là, eh bien, tu vas choisir un agneau, tu vas chercher une brebis, etc. Et tu vas offrir un sacrifice pour le péché, pour être pardonné. Ce serait aberrant, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. L'œuvre du Seigneur a été faite une fois pour toutes. Quand j'ai péché, je confesse mon péché, et Dieu est fidèle et juste pour me pardonner mes péchés et me purifier de toute iniquité. Et donc, il ne s'agit pas, simplement, c'est juste un exemple, il ne s'agit pas de faire, à ce moment-là, quelque chose qui est pourtant prescrit par la loi pour pouvoir être pardonné, puisque l'œuvre du Seigneur est parfaite. Et s'il fallait le faire, si c'était nécessaire, ça voudrait dire que l'œuvre du Seigneur est insuffisante. Et là, on comprend que ça ne peut pas être ça.
De lire l'Épître aux Hébreux dans son intégralité, parce que l'auteur de cette épître manifeste d'une manière visible que Jésus est supérieur à tout. Il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Aaron, il est supérieur à toute la classe sacerdotale, il est supérieur à tous les sacrifices, il est supérieur au temple, il est supérieur à tout ce qui a été donné par Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament. Il sublime le tout et il est le seul passage obligé, finalement, entre le ciel et la terre. Il dépasse et de loin la loi écrite, puisqu'il est la loi orale, vivante, permanente. Il est celui qui nous ouvre le chemin. Il est celui qui nous dit, il nous demande d'être lumière du monde, on l'a lu ce matin, mais n'oublions pas qu'il est lui-même lumière du monde. Nous ne pourrions rien refléter de lui si nous restons cachés de lui. Voici, dit-il, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Alors, comme nous le chantons parfois, Jésus, mon tout, ma vie. Il est supérieur à tout ce que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut plus lire l'Ancien Testament. Bien au contraire. Parce que tout ce qui nous est donné en nombre dans l'Ancien Testament, en référence directe avec le Seigneur Jésus, nous le comprenons d'autant mieux lorsque nous voyons Jésus dans sa vie de tous les jours, et dans les précieux conseils qu'il nous a laissés, et en l'occurrence aujourd'hui, au travers de ce sermon sur la montagne.
Alors, pour ce qui concerne les prescriptions légales sur tout ce qu'il fallait faire dans l'Ancien Testament, c'est quand même une question qui se pose et qui s'est posée au début et que les apôtres ont eu à débattre, puisqu'on en a le compte rendu en acte 15. Et je donne les derniers versets qui sont la conclusion. Il a semblé bon au Saint-Esprit, c'est acte 15, 28, il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires, qu'on s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé, de la fornication. Si vous gardez ces choses, vous ferez bien, portez-vous bien. Et donc, quant aux prescriptions de l'Ancien Testament, c'est clair.
Nous sont utiles encore aujourd'hui. Il y a, par exemple, tous les détails du tabernacle sont très intéressants à étudier dans le détail. Beaucoup de nos frères qui nous ont précédés nous ont aidés à comprendre ces détails et une instruction extraordinaire à les voir. Et le Seigneur lui-même, ne dit-il pas à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 44, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Et puis au verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Donc, toutes les Écritures nous parlent du Seigneur et sont utiles aujourd'hui pour nous. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire dans la justice.
Je propose qu'on passe à la deuxième question. C'est une explication de mot. Que signifie le mot GN au verset 22 du chapitre 5, par exemple? Le mot GN. Permettez-moi juste de donner un début de réponse. Il me semble que ça fait allusion à la vallée du Hinnom, qui était au sud de Jérusalem, sud-sud-est, quand on regarde la carte, au sud de Jérusalem. Mais que signifie ce nom GN, GN de feu?
Comme tu le dis, géographiquement, c'était bien la vallée du Hinnom, au sud de Jérusalem, c'était le dépotoir municipal, c'était là qu'étaient recueillies toutes les ordures de la ville, et comme il n'y avait pas d'incinérateur comme ceux que nous connaissons aujourd'hui, bien ces ordures, il fallait les brûler, donc il y avait un feu permanent. Et cette expression « GN de feu », « brûlage d'ordures », nous parle bien évidemment spirituellement de tout ce que Dieu a en horreur, en quelque sorte. Donc celui qui, le Seigneur il va très fort, celui qui du bout des lèvres ose dire quelque chose à son frère d'incorrect, simplement stupide, idiot, fou, eh bien le Seigneur considère qu'il est tout bon pour être jeté dehors et d'être brûlé, comme une vulgaire ordure, le feu éternel.
Alors, question suivante. À propos de Matthieu 6, verset 7, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Alors, dans nos réunions de prière, bien des fois une prière est reprise par un autre frère. Est-ce que c'est une vaine redite ou une insistance auprès du Seigneur?
Pour moi, c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose qu'on sent. Il arrive que des réunions de prière ciblent quelques sujets particuliers, un nombre limité de sujets. Et quand il y a une vraie préoccupation dans une assemblée, dans une église, et qu'il y a une réunion de prière avec un exercice partagé par beaucoup, il y a une insistance sur le sujet qui pèse sur tous. Pour moi, quand je sens ce poids, ce besoin d'une réponse, je ne l'éprouve absolument pas comme une redite. Si c'est quelque chose qui paraît être dit régulièrement, de sorte que, par exemple, quand on entend quelqu'un ouvrir la bouche, on dit « bon, ben, je vais entendre ça, je vais entendre ça », ça peut peut-être prendre un autre caractère. Mais ça a été exprimé tout à l'heure dans la présentation. Il faudrait que les demandes soient telles qu'on sente un besoin véritablement, et c'est quelque chose qui porte et qui conduit l'Assemblée avec un service d'intercession qui, à mon avis, fait plus effectivement mouvoir le bras de Dieu que le simple fait d'être là pour demander un certain nombre de choses régulièrement. Il faut un exercice véritablement, mais qu'une même chose soit demandée plusieurs fois parce que c'est un véritable besoin, qu'il y ait une douleur partagée, un exercice partagé, moi je ne le considère pas comme une redite. Bon, c'est mon expérience personnelle et c'est ma perception que je livre librement.
De Matthieu 6, c'est quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, il faut quand même lire la suite. Comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exorcés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait que vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Je suis jamais allé au Tibet, mais l'année dernière, on était en Suisse avec Geneviève, et pas loin de Vevey, là-haut, il y a un temple bouddhiste qui a été fait. Et vous voyez dans les jardins, au milieu des arbres, tout plein de moulins à prière. C'est le vent qui fait tourner des choses. Et alors, je ne sais pas si vous imaginez comment ces prières peuvent monter, où est-ce qu'elles vont, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est un moulin à prière, c'est une vaine redite. Et il s'agit de ne pas se comporter comme ceux des nations qui espèrent au fond avoir une réponse de Dieu par les mérites de leurs paroles. Il y a une chose, par exemple, qui me gêne pas mal, c'est quand, au début d'un kilt, on dit ceci, nous te prions pour que ce que nous allons te dire, tu puisses l'accepter. Alors, s'il ne l'accepte pas, c'est que nous avons un péché à juger. Et deuxièmement, si nous arrivons dans la présence de Dieu, c'est parce que nous sommes acceptés, mais non pas pour être acceptés. Or, le système de la vaine redite, c'est beaucoup se bouger pour que la divinité accepte ce qu'on apporte. Ne leur ressemblez pas. Et c'est ça la vaine redite. D'un autre côté, tout à l'heure, j'ai parlé des supplications. Pour moi, des supplications, c'est quand même répéter les choses. Et enfin, je n'ai pas peur de le faire, parce que il est dit dans un évangile, alors je sais bien qu'il y a quand les prières du Seigneur Jésus à Gethsémané, quand on prend les différents évangiles, on a trois différentes. Mais il y en a un, il est dit, et il répéta les mêmes paroles. Alors si notre Seigneur Jésus a répété les mêmes paroles, la même prière, en fait c'était le même sens, même s'il avait des mots différents. Et puis Paul, par trois fois j'ai supplié le Seigneur, il m'a dit non, ma puissance, ma grâce te suffit. Donc n'ayons pas peur, et si vraiment il y a quelque chose qui une urgence, quelque chose qui nous tient, allons-y. Nous ne sommes pas des moulins. Par contre, être un moulin à parole, ça c'est autre chose. Une prière qui dure une demi-heure, c'est un problème. Du moins en public.
voudrais citer quelque chose simplement d'un commentateur. Lorsque nous prions, ça n'est pas pour que la volonté de l'homme soit faite dans le ciel, mais pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Alors, les vénérodites n'ont aucune place, là.
Oui, et puis la longueur des prières, c'est un sujet permanent. Moi, je confesse que j'ai beaucoup de peine à dire « Amen » par le Saint-Esprit s'il y a beaucoup de demandes dans une prière. On sait plus, on en a oublié la moitié, enfin, pour moi. Hein. Alors, je supplie mes frères, s'il vous plaît, j'ai pas de problème à La Rochelle, hein. Mais d'une façon générale, essayons d'être courts. Chères sœurs, si votre mari prie longuement, n'hésitez pas à le lui dire. Attendez peut-être d'être dans la voiture, mais ça fait du bien.
On a un exemple collectif aussi d'instants de prière dans cet exemple de réunion de prière dans le livre des Actes au sujet de Pierre qui était emprisonné. Il est dit que l'assemblée faisait d'instants prière à Dieu pour lui, au pluriel. C'était le même sujet. Oui, c'était Pierre qui était emprisonné et l'assemblée a fait d'instants de prière pour lui et ça n'a pas empêché l'assemblée d'être étonnée et incrédule quand Pierre lui-même a frappé à la porte.
Dans l'épître de Jacques également, il est question de la fervente supplication du juste qui peut beaucoup, la fervente ou l'opérante supplication. Quand on supplie, c'est qu'on arrive vraiment au dernier recours, à la dernière expression de ce que l'on espère éventuellement obtenir. Un cas d'une grave maladie, le cas de départ d'un être cher, alors on supplie. On supplie et peut-être que l'on se redit, peut-être que l'on se répète, mais nous avons affaire à un Dieu de grâce, à un Dieu de miséricorde, un Dieu qui s'est fait homme en la personne du Seigneur Jésus. Jésus qui, tout en étant parfaitement Dieu, était lui-même parfaitement homme. Combien de fois dans l'évangile de Luc ne nous est-il pas dit qu'il était ému de compassion? Il a été un homme comme un homme, avec ses craintes, on vient de le rappeler, en Gethsémané. Il a pleuré, il a eu soif, il a eu faim, il était fatigué. Il comprend que devant des situations critiques, on puisse peut-être se répéter, mais dans la supplication, on obtient ou on n'obtient pas. Parce que trop souvent, on essaie de faire valoir nos propres désirs pour obtenir une faveur, mais la plus belle prière, c'est celle que le Seigneur, avec laquelle le Seigneur conclut son combat de Gethsémané, que ta volonté soit faite. Et là, on s'incline, quoi qu'il nous en coûte, parce que c'est la volonté de Dieu qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Alors ça me remet un petit peu en ligne avec cette merveilleuse prière que le Seigneur utilise ici dans le chapitre 6. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». C'est peut-être cette prière-là qui est devenue une vaine redite. C'est peut-être pour cela que nous ne l'utilisons pas, parce que dans d'autres milieux chrétiens, elle est répétée pratiquement mécaniquement. Mais comme on l'a étudié ce matin, elle est d'une telle élévation, d'une telle ampleur. Je crois que le Seigneur nous a donné un canevas merveilleux dont il convient de s'inspirer à ce sujet-là. Notons que les premières expressions ne concernent que Dieu, que ton nom, que ta volonté, que ton règne, et puis seulement on parle de nous, on exprime quelque chose de nous. Lorsque Samuel était dans le temple, le merveilleux conseil qu'il reçoit d'Élie, c'était de se tourner vers Dieu en lui disant « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Nous, souvent, trop souvent, nous faisons l'inverse. Nous disons à Dieu « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. » Donc, voilà, il faut s'inspirer de cette prière et l'utiliser à bon escient.
qu'on peut en tout cas s'exhorter les uns les autres à ne pas prier avec des phrases toutes faites, avec des formules toutes faites aussi, en souvenir peut-être de la première fois avec laquelle nous avons dit une prière avec une vraie ferveur, à force de les répéter. Je mets bien l'image d'un frère qui nous en parlait et qui nous parlait du sillon, vous savez, qui s'enfonce petit à petit, c'était lors d'un web. Le sillon de la prière que nous répétons et qui se vide de son sens. La remarque de Pierre répond à la question suivante. La question suivante, mais peut-être il peut y avoir une autre réponse. Pourquoi sommes-nous mal à l'aise avec le Notre Père ? C'est une prière que nous ne prononçons jamais en assemblée.
On n'est pas forcément mal à l'aise. Je me souviens d'une situation où j'ai entendu cette prière récitée par des personnes qui aimaient profondément le Seigneur et qui la disaient de tout leur cœur avec conviction, comme si c'était la première fois. Moi, ça ne me gêne pas. Par contre, puisqu'il est écrit dans le même texte de ne pas user de vaines redites, eh bien, on peut dire la même chose dans le contenu, mais d'une autre manière, pour que ce soit vivant, nouveau, réel, avec un exercice actuel ou actualisé.
Au sujet de cette prière, on a un autre enseignement, parce que le Seigneur s'adresse à la fois individuellement et collectivement. Alors il dit la première fois au verset 6, « Mets-toi quand tu pries ». Donc ça, c'est une prière individuelle. Et après, il est dit au verset 9, « Vous donc, priez... » Pardon. « Vous donc priez ainsi, voilà. » Et là, s'adresser à Dieu comme étant notre Père. Et dans beaucoup de milieux chrétiens, souvent, en assemblée, les frères s'expriment à la première personne du singulier. Et bon, c'est un petit peu gênant parce qu'ils ne sont pas les porte-parole du rassemblement, alors qu'il nous est demandé de prier au nom du rassemblement. Donc on a bien un enseignement ici sur la prière individuelle ou collective.
Merci de nous rappeler que c'est le « nous » quand nous sommes ensemble qui est important. Sur le « Notre Père », moi je fais une distinction. Quand je suis avec un frère qui partage ce que nous avons échangé ce matin, ça me semblerait difficile de réciter ensemble le Notre Père. Hein, bon. Par contre, si je me trouve avec, comme tu l'as dit, un chrétien sincère qui est habitué à exprimer sa relation avec Dieu au travers de cette prière, parce qu'il n'a pas autre chose peut-être, parce qu'on ne lui a pas appris autre chose. Mais alors s'il me demande de faire un mille avec deux, j'ai 2 kilomètres, mais je peux faire 4 kilomètres avec lui et réciter la prière avec lui, et je crois que c'est à sa place dans ce cas-là.
La phrase récitée. Moi j'ai lu « prier ».
Alors c'est vrai, peut-être la distinguo est là. On peut prier cette... je pense que beaucoup de chrétiens prient cette prière. Et il faut les respecter profondément. Mais aussi on peut la réciter. Et il me semble qu'il y a une différence. Enfin, je m'amuse un peu à te chercher. Mais bon, c'est...
Je cherchais le mot, j'aurais dû dire.
Je voudrais ici présenter une circonstance particulière. Mon épouse et moi, nous avons participé récemment à une réunion avec des chrétiens catholiques fervents, dans le cadre d'une instruction du groupe Alpha, puisqu'il m'avait été demandé de présenter le sujet numéro 6 concernant la lecture de la Bible. Et lorsque la présentation est faite, on se sépare en 2 groupes, où il y a un canevas de questions bien précises auxquelles chaque groupe est tenu de répondre. Et cet examen se termine par un moment de prière. Nous étions les seuls
protestants, entre guillemets, dans ce groupe. Et à la fin de ce petit moment de prière, les catholiques qui en ont l'habitude entament ce Notre Père. Je vous avouerai bien sincèrement que je l'ai récité, ou je l'ai dit, ou j'ai prié avec eux parce que je me sentais à l'aise, parce que nous avions passé un moment de partage autour de la parole de Dieu qui était positif et constructif, et ça ne m'a pas gêné du tout. Donc voilà, il y a des circonstances où on peut se le permettre parce que c'est vécu, c'est sincère.
Alors c'est une prière modèle, qui n'est pas une prière liturgique, mais par rapport au sujet des veines redites dont on a parlé avant, elle a l'avantage d'être brève, elle a l'avantage d'être simple, elle a l'avantage d'être facile à comprendre. Et je crois que le Seigneur Jésus la donne pour modèle dans ce but-là. Effectivement, pas pour que nous la répétions mot par mot, mais pour que nous en prenions exemple dans nos prières. La question suivante est à propos de cette prière, au verset 11. Donne-nous aujourd'hui... Pardon. C'est au verset 12. Remets-nous nos dettes, comme aussi nous remettons à nos débiteurs. En relation avec Luc 11, verset 4. Remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent, et ne nous induis pas en tentation. Donc la question, on entend quelquefois que le chrétien n'a pas à demander pardon à Dieu, puisque Dieu en Christ lui a déjà pardonné, mais seulement à lui confesser nos fautes. 1 Jean chapitre 1. Est-ce que c'est juste par rapport à ces versets? Donc faut-il demander pardon à Dieu ou confesser nos fautes?
Il y avait des cartes sur le mur qui étaient muettes. Montre-moi la Loire. Tu fais un grand geste et tu montres toute la France. Il me semble que quand il s'agit de confesser, c'est dire ce que l'on a fait à Dieu, et en le faisant, on demande pardon. Et plutôt, en le faisant, Dieu nous pardonne. Je peux dire pardon au Seigneur, et puis sans prendre conscience de ce que j'ai fait. Et c'est ce, il me semble, c'est ce qu'on veut dire quand la parole dans l'épître de la première épître de Jean, il dit de confesser son péché. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de nos iniquités. C'est-à-dire, tu dis devant Dieu, j'ai fait ça et je le regrette. J'ai péché. Un peu comme David disait, contre toi seul, j'ai péché. Et il parle de ce qu'il a fait. Il ne reste pas dans le vague, dans le flou, c'est une réalité. Et dire, Seigneur, tu vois, ouais, je suis désolé, je te demande pardon, et hop, tu t'en vas. Enfin, excusez-moi, je caricature, mais il me semble que la parole parle vraiment de confesser son péché et pas simplement ce que j'appellerais un vague pardon. Bien sûr, Dieu lit dans le cœur et on peut très bien dire pardon, Seigneur, et ça correspond bien à un état de cœur qui correspond à ce que Dieu attend.
Une précision sur confesser. Dans l'original, ça veut dire la même chose. Et quand je confesse mon péché, c'est pas je dis j'ai péché, c'est ce que je viens de faire, Dieu l'appelle un péché, et moi aussi, devant Dieu, je l'appelle un péché. C'est ça le sens de confesser. C'est dans ce sens aussi qu'on peut confesser Jésus-Christ. En disant la gloire de Jésus-Christ, on dit la même chose que Dieu sur Jésus-Christ.
Alors, question suivante, par rapport au verset 16. Et quand vous jeûnez, donc le mot quand est souligné, ça a été dit tout à l'heure dans l'exposé d'Élie, puisque le jeûne est censé faire partie de notre vie spirituelle normale quand vous jeûnez. Pourquoi n'est-il pas enseigné et apparemment peu pratiqué? Quels sont les obstacles à enlever ou les réticences?
Peut-être un exemple pratique pour tenter de commencer à répondre à la question. Nous avons un jeune à Bruxelles, Pierre Tuyishime, qui est rwandais d'origine. Il a 17 ans et l'année dernière, il a demandé à être en communion à la table du Seigneur. Et nous avons été le visiter et en parlant de choses et autres, il nous a fait part d'un exercice spirituel. Et il nous disait que, avant de prendre sa décision de plaire au Seigneur, il avait jeûné. Et moi, tout bêtement, tout candide, je lui avais demandé, tiens, et tu t'es privé de nourriture pendant combien de jours? Ah, mais non, qu'il me dit, c'est pas du tout ça. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait alors? Eh bien, je me suis volontairement privé de tout ce qui me plaisait pendant une semaine. Je n'ai plus regardé la télévision, j'ai stoppé mon portable. Je n'ai plus écouté de la musique à la radio. Je me suis volontairement privé pendant une semaine de tout ce qui me faisait plaisir. Eh bien, j'ai été stupéfait de voir qu'un jeune de 17 ans finalement m'enseignait. Je n'avais jamais pensé à ce genre de jeûne spirituel, s'il en est, mais voilà un exemple pratique. Et c'est une façon de se consacrer au Seigneur. Je ne dis pas que la privation de nourriture ne l'est pas aussi, mais voilà, il y a peut-être différentes formules, différentes façons. Le but, en tout cas, c'est de restreindre ce qui pourrait nous attacher au monde et faire grandir en nous toute la vie que Dieu veut mettre en abondance dans notre cœur. Ça a été l'exercice spirituel de ce jeune Pierre et il s'est voué au Seigneur et il a voulu lui consacrer sa vie et il est entré en communion à la table du Seigneur.
Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, je lis deux expressions. Je n'ai pour faire entendre sa voix en haut. Ou encore, l'Éternel dit, n'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi, qu'on rompe les chaînes de l'iniquité. Donc voilà, le jeûne au sens spirituel, je l'apprécie, tel qu'il a été présenté. Je voudrais dire un petit mot de quelque chose que d'autres ont sans doute entendu comme moi. Il y a des années de ça, c'était en Égypte. Il y avait une grande difficulté avec peut-être l'impossibilité de se réunir. Et une assemblée était très exercée à cet égard, et c'est Hélène Vorov, je crois, qui a rapporté ceci. Ils se sont retrouvés, plusieurs, ils ont jeûné volontairement pour prier. Et la réponse est venue, ils ont eu l'autorisation qu'ils attendaient. Et ils n'ont pas eu la privation qu'on commençait à faire... à leur présenter ou en leur disant, eh bien voilà, voilà ce qui va vous arriver, maintenant c'est fini.
Alors, il y a peut-être une explication historique à la question. Hein. Quand j'allais à l'école primaire à Thomas, n'est-ce pas, tous les vendredis, il n'y avait personne dans les boucheries parce que c'était jour de jeûne. Et c'est vrai que c'est une forme de jeûne formelle, imposée presque à tout le monde. Et on a réagi contre cela. Et l'enseignement que nous avons souvent entendu était une réaction contre cela. Alors, c'était juste de dénoncer du formalisme. Mais ça suffit pas, mes frères. L'enseignement, il est dans l'Écriture. Et dans l'Écriture, c'est quand tu jeûnes. Avec les deux exemples qui sont notamment dans les Actes. Alors, je le confesse devant vous. Je pense que nous manquons sur ce point-là dans la pratique.
On a aussi un exemple de jeûne Peut-être dans 1 Corinthiens 7, verset 5, quant au couple, ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que ce soit d'un consentement mutuel pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière. Donc on voit que on ne peut pas forcément s'arrêter à la nourriture, mais voilà, la consommation du mariage, si c'est pour se consacrer à la prière, par exemple. Et on comprend bien, d'ailleurs, la pensée de Dieu à ce sujet. Mais c'est vrai qu'on a, on a peut-être réagi sur d'autres sujets, sur pour la pratique de la vie chrétienne. Je pense aussi à la part qu'on a donnée à Marie. On a réagi contre, bien sûr, la place qui a été donnée à Marie dans une partie de la chrétienté. Eh bien, voyons ce que dit le Seigneur au sujet de Marie. On a parlé du Notre Père, on peut parler de Marie aussi. Eh bien, que dit le Seigneur? Que dit Marie elle-même à son sujet? Marie, et donc Luc chapitre 1er verset 46, et Marie dit: mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. Et toutes les générations, fin du verset 48, toutes les générations me diront bienheureuse. Petite parenthèse pour dire que on réagit peut-être à tort aussi pour certains aspects.
Peut-être il y a un exemple qui a influencé, alors dans le sens de favoriser le jeûne, c'est quand le Seigneur Jésus est descendu de la montagne, il est arrivé, il y avait le fils de cet homme qui était possédé par les démons, et puis les disciples n'avaient pas pu chasser le démon, le Seigneur chasse le démon, et à la fin il pose la question: pourquoi nous n'avons pas pu le chasser? Et le Seigneur leur répond, verset chapitre 17 de Matthieu, verset 21, « Mais certes, sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et on retrouve dans l'Évangile selon Marc la même chose, et sauf erreur, je ne suis pas très sûr dans Luc. Mais ce verset n'existe pas dans beaucoup de manuscrits en grec. Donc c'est pas un verset, si je veux dire, très affirmé, très très sûr. Mais c'est pas pour le condamner, c'est pas pour l'enlever. Mais c'est peut-être pour nous enlever l'idée que bon, j'ai un problème. Si je prie, ça suffit pas. Je vais rajouter le jeûne et là Dieu va me répondre. Là on est en train d'introduire une réponse au mérite et non pas sur la grâce de Dieu. Maintenant, si j'ai vraiment un problème à cœur, eh bien pourquoi? Je pense que je ne penserai pas à autre chose. Je n'aurai pas envie d'aller, en tout cas. Et dans ce sens-là, eh bien, je jeûnerai. Alors c'est vrai qu'on a probablement exagéré, comme tout à l'heure on l'a dit, par rapport à ce qui s'est fait, on a trop exagéré, mais il faut à la fois, si j'ose dire, réhabiliter le jeûne. Si tu as envie de jeûner, ne te prive pas, si j'ose te dire. Ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas dans les épîtres d'enseignement où nous sommes exhortés à jeûner. Il n'y a aucun enseignement où qui nous dise comment le faire, mais là, c'est le Seigneur qui nous dit: quand tu jeûnes, alors, vas-y. Mais n'en fais pas un sujet de mérite, n'en fais pas un sujet où les autres te regardent en disant bravo, qu'est-ce qu'il est spirituel celui-là, et ainsi de suite. Alors quand ton frère Pierre aussi, tout s'appelle Pierre. Et on peut quand même venir. Et quand ton frère Pierre a dit ça, il a dit simplement ce qu'il avait fait. Il t'a pas dit: regardez-moi si je suis spirituel. C'était naturel, c'était normal. C'était sa vie. Alors peut-être que nous avons besoin de grandir, en tout cas pour moi, dans une vie plus simple avec le Seigneur, plus spontané et plus profonde et plus sincère, de telle sorte que être beaucoup plus saisi quand par rapport à telle ou telle chose et de telle sorte que vraiment je m'adonne davantage à la prière et j'oublie un peu mes petites aises.
Agréable à l'éternel, je pense que le verset 7 peut vraiment nous interpeller parce que c'est ce que nous allons vivre maintenant et d'autant plus qu'on est face à des gens qui en ont besoin. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses entrer dans ta maison les affligés et un sans asile? Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas à ta propre chair. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont besoin de dormir au chaud, il y a des gens qui ont besoin d'être vêtus. Je m'apprends.
Dans Luc 4, il y a bien le Seigneur qui rencontre le jeune, n'est-ce pas ? Je pense que c'est ne pas nourrir la chair, toutes les demandations de la chair, pour s'abstenir de les nourrir, peut-être en tant que jeune dans ce sens-là.
Oui, ça correspond à l'exemple de Pierre. Effectivement, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur,
quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien, l'intercession revêt quelque chose de particulier. Pour moi, je ne peux pas être préoccupé par quelque chose qui me travaille, supplier le Seigneur, revenir, même si certains le considèrent comme une répétition. Je reviens, je lui dis, Seigneur, je ne peux pas m'empêcher, j'ai besoin que tu m'aides, j'y pense. Et même quand on est au travail, prie, quand on est encore en activité, d'un seul coup, ça vient, Seigneur, j'y pense. Je ne peux pas, quand je vis des choses comme ça, vivre librement des choses qui ont un caractère mondain. Alors en ce sens, il y a cet aspect du jeûne qui a été évoqué tout à l'heure, et je pense que c'est effectivement à sa place, c'est dans la pensée de Dieu. Mais il peut y avoir aussi le lien avec une réalité pratique de s'abstenir de nourriture. Les deux sont dans le bon ordre des pensées de Dieu.
Il y a peut-être un point sur lequel nous n'avons pratiquement jamais insisté. Je ne suis pas spécialiste de la question, ni médecin, ni diététicien, mais il semblerait que la privation volontaire de nourriture pendant quelques jours permet un éclaircissement radical des pensées et des idées. Donc je crois qu'il y a cette notion que le Seigneur probablement connaissait, à savoir qu'un appauvrissement matériel, une privation volontaire de nourriture, permettait un enrichissement spirituel et une vie qui se met mieux en connexion avec notre Dieu et notre Père. Donc je crois que l'idée, puisque le Seigneur l'a fait, nous nous proclamons toujours comme les imitateurs de Christ, puisque le Seigneur l'a fait, pourquoi ne le ferions-nous pas ?
Alors, peut-être encore un verset qui n'a pas été cité, c'est dans Zacharie au chapitre 7, quand au verset 5, Dieu pose la question à son peuple, est-ce réellement pour moi, que vous avez jeûné ? Et c'est un verset qui peut nous aider. Quel est le motif, si je pense à un jeûne ? Est-ce que c'est pour pouvoir le dire, ou est-ce que c'est dans ma relation avec Dieu ? Et c'est ce qui change tout. Relation privée avec Dieu.
Je propose de passer à la question suivante, une explication de mots, de nouveau, au verset 19 et 20 du chapitre 6, toujours. Que signifie la teigne et la rouille ?
La teigne, dans une version plus récente, c'est devenu la mythe, mais ça ne change rien. Je pense qu'on sait tous ce que c'est que des mythes. Le problème de la mythe, c'est que si on ne fait pas attention, une fois qu'il y a le trou, en général, le vêtement est perdu. Et c'est une toute petite chose, la mythe. On n'y fait pas attention, mais le dégât arrive très vite. La rouille, c'est comme une tache. Je ne sais pas si c'est un champignon, mais c'est quelque chose qui vient détruire les tissus aussi.
Dans les deux camps, en tout cas, à travers ce que vous dites, on sent quelque chose qui intervient, qui ronge et qui porte préjudice.
Verset 3, Jacques 5, verset 3, une parole aux riches, « Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous. Vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. » On passe aux trois questions du chapitre 7. Alors, la première, c'est au verset 7, par rapport à « Demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez. » Parfois, nous devons attendre longtemps quand la demande concerne l'assemblée. Comment discerner la véritable réponse du Seigneur sans désespérer ? Donc, attendre longtemps et puis discerner la véritable réponse du Seigneur. Peut-être une question connexe. Peut-être que le Seigneur a déjà répondu, mais on n'a pas vu la réponse.
Isaac a prié 20 ans pour avoir ses fils. Dieu a mesuré le temps. Alors bien sûr, quand il les a eus, il savait qu'il les avait. Hein. Il a mesuré le temps et je crois que par exemple, quant à la prière, quand le Seigneur en parle dans l'histoire du juge et de la veuve unique, une des leçons de cette parabole, c'est que il se passe du temps entre le moment où tu demandes et le moment où tu reçois. Et le Seigneur dit ceci, c'est dans Luc, au chapitre 18, verset 7. Le Seigneur dit, Luc 18, 7, le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge unique, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Il use de patience avant d'intervenir pour eux. Je vous dis que bientôt il leur fera justice, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il me semble, l'enseignement de cette parabole, c'est que Dieu ne répond pas tout de suite. Et la question que le Seigneur me pose, c'est est-ce que tu continues, malgré tout, à me faire confiance ? Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre ? Et ça, c'est une vraie question. Et quand vous lisez la Bible, il me semble qu'il y a beaucoup plus d'exemples de réponses de Dieu après beaucoup de temps que de réponses immédiates. Et regardez le nombre de patriarches qui ont attendu la naissance d'un fils, 25, 30 ans, 20 ans et plus. Et puis, c'est souvent comme ça. Et ça, c'est la réalité de la vie. Pourquoi Dieu ne répond pas ? Parce que à travers ce cheminement, il m'apprend à recevoir les choses de lui, à m'attendre à lui et avoir cette patience. Alors, une des qualités que Dieu veut que nous ayons, c'est justement la patience.
la patience produit l'expérience. Plutôt l'épreuve produit l'espérance. Puis il y a tout un enchaînement avec la patience. Excusez-moi, c'est en Romains. Romains 5, verset 3. Nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience l'expérience, l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Donc il y a tout un cheminement, et ce cheminement nous amène dans une relation confiante vis-à-vis de Dieu. Mais, et puis il y a une autre chose aussi, cette patience que Dieu veut qu'on ait, eh bien, ce n'est pas quelque chose de facile. Et dans l'Épître aux Colossiens, il faut, au fond, au chapitre 1er, il y a ce verset qui dit ceci, toujours quant à la patience, au verset 9, « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre, croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. » Donc, il faut toute la puissance de Dieu pour former en moi la patience et la persévérance. En moi, enfin, en chacun de nous. Et il me semble que un des moyens que Dieu emploie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est justement ce fait que c'est pas pour nous embêter qu'il nous fait attendre, mais c'est pour que vraiment on sache attendre de lui et attendre les vraies réponses qui viennent de lui et être formé de cette manière, dans cette dépendance, dans cette confiance et dans ce cheminement qui va petit à petit vers une sorte de dépouillement de soi-même et puis vers le Christ formé en nous. Donc c'est très facile à dire, un peu plus difficile.
Alors, Dieu ne peut pas répondre tout de suite, soit à cause de lui-même, soit à cause de nous, mais par contre il écoute tout de suite. Et ça, c'est un verset dans Daniel au chapitre 10 qui nous le dit clairement. Daniel 10 au verset 11, c'est Daniel, homme bien-aimé, et au verset 12, « Ne crains pas, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Et si Dieu n'apporte pas la réponse, il veut que nous sachions que nous sommes écoutés dès le début, et cela est pour amener la paix du cœur dont il est question dans Philippiens 4.
Une manière peut-être aussi pour nous d'être patient ou plus patient, c'est de compter aussi les réponses que le Seigneur nous a données déjà à nos prières, à beaucoup de nos prières. Et c'est pas pour rien que lorsqu'on est exhorté à la prière, on a cité Philippiens par exemple, eh bien nous sommes exhortés aussi à l'action de grâce. Et si nous pensons, en regardant déjà le temps écoulé et le passé, tout ce que le Seigneur nous a donné, même sans que nous lui demandions parfois, et la façon dont il a dépassé nos prières aussi, eh bien, nous pouvons aussi lui faire confiance sur le plan de l'expérience.
Un aspect à la question, peut-être je relis. Comment discerner la véritable réponse du Seigneur sans désespérer?
Il est certain que le Seigneur ne répond pas toujours comme on aimerait qu'il réponde. Et parfois, on a l'impression qu'il ne répond pas. Et c'est une erreur de penser cela. Il y a des circonstances dans la vie, et je pense à l'apôtre Paul. Il a supplié trois fois le Seigneur qu'on lui ôte les chardes qui lui faisaient mal, mais nous avons la réponse, une double réponse du Seigneur. D'une part, il voulait lui faire sentir combien sa grâce
était toute puissante, ma grâce te suffit. Et d'un autre côté, au verset précédent, l'apôtre Paul avoue lui-même, afin que je ne m'enorgueillisse pas d'une telle expérience spirituelle qu'il venait de faire. Donc voilà, avec l'expérience, comme Jean-Luc le signalait tout à l'heure, eh bien, on comprend après coup que c'était une réponse du Seigneur qui a peut-être fait mal, très mal, mais que l'on accepte finalement par la foi en se disant qu'il nous a préservés peut-être de ceci ou de cela, ou qu'il nous a engagés dans un chemin de fidélité accrue, ou qu'il nous a montré un service qui lui tient particulièrement à cœur et que nous n'aurions peut-être pas exercé si nous n'avions pas connu telle ou telle chose. Voilà. On demande avec foi, on reçoit toujours quelque chose, même si ce n'est pas la chose désirée, mais non seulement le Seigneur entend dès le premier jour, dès la première requête, il a son temps, parfois il répond tout de suite, en délivrance. On a cité tout à l'heure le cas de Pierre qui s'enfonçait dans les flots. C'est une des prières les plus courtes de toute la parole de Dieu. « Seigneur, sauve-moi !» Et tout de suite, le Seigneur est là. Donc, il y a des réponses instantanées, il y a des réponses différées, il y a des réponses qui nous dépassent, il y a des réponses que nous ne comprenons pas, mais par la foi, si on les accepte comme venant du Seigneur, toujours en ne faisant pas passer nos propres désirs en priorité, bien, c'est cela aussi l'école de la foi, l'école de Dieu, et petit à petit, bien, nous grandissons dans la connaissance de celui qui nous aime.
Oui, tu as précisé que c'est dans une démarche collective que se posait la question de discerner. Alors c'est vrai que, bon, on a prié en assemblée pour un sujet, et peut-être que tout le monde ne va pas se rendre compte que Dieu a répondu. Quelquefois, c'est assez subtil, les réponses. Il me semble que dans ce cas-là, celui qui s'en rend compte a le devoir devant ses frères de le dire. Ça peut être tout simplement une prière d'action de grâce, parce que Dieu a répondu à telle prière, mais on aide. On lisait hier soir à La Rochelle le livre de Néhémie, et où on voit l'action de Néhémie. Et il y a un moment, il dit, Dieu avait dissipé leur conseil, le conseil des ennemis. Mais les ennemis étaient toujours là, embêtés, il y en a qui étaient découragés. Oui, mais Néhémie avait vu que Dieu avait intervenu, et il le dit publiquement. Je crois qu'on a à s'encourager l'un l'autre, à signaler précisément, celui qui le voit a la responsabilité de dire « Dieu a agi, rendons grâce ».
Je propose qu'on passe à la question suivante, qui est tout un programme. Vous êtes le sel de la terre, verset 13 du chapitre 7. Non, pardon, verset... Ah oui, je suis allé, c'était avant, chapitre 5, verset 13, donc on revient sur le chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde, verset 14. Ces affirmations semblent trop grandioses pour être vraies dans notre réalité. C'est pourquoi nous cherchons toujours à les atténuer. Vous êtes, hein, c'est souligné, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Et pourtant, comment les vivre au quotidien ?
C'est écrit dans la Bible, moi, je suis persuadé que c'est vrai. Dieu le dit, vous êtes. Donc je ne me pose pas la question pour savoir si je suis vraiment ou si je ne suis pas tout à fait. Ou si, hein. Il le dit. Alors, ce qui est engagé tout de suite, c'est la responsabilité. En somme, le Seigneur me dit, voilà ce que tu es. Et en quelque sorte, mais est-ce que tu réalises vraiment que tu es ceci ? Donc la responsabilité est engagée. Quel est le caractère du sel ? Il est là pour la conservation, pour éviter que ce qui est saint soit altéré. La lumière, elle est là pour éclairer dans les ténèbres, pour mettre les choses en évidence, comme on le trouve par exemple décrit dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, nous devons sentir notre responsabilité quand il y a des déclarations totales comme celle-ci, les recevoir ici, le Seigneur le dit, on le reçoit, et en somme il nous invite à le réaliser et à occuper véritablement dans la vie pratique cette situation. Si je vis de certaines formes de compromis, est-ce que je suis le sel de la terre? Non. Donc ça veut dire que j'ai pas droit à entrer dans des situations compromettantes, à vivre des choses douteuses, à rire quand on se moque de Dieu, par exemple, même si tout le monde rit autour de moi, c'est pas possible. Voilà. La lumière, c'est pareil. C'est quelque chose qui met en évidence les anomalies, qui paraît pour mettre la pensée de Dieu au clair dans les ténèbres. Eh bien, voilà, on ne peut pas avoir de communion avec ce qui est ténébreux, avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, il faut véritablement entendre cette chose, et le Seigneur nous dit, eh bien voilà, vous l'êtes, alors soyez-le véritablement.
Oui, c'est vous l'êtes, c'est pas vous allez le devenir par vos efforts ou en cherchant à être lumineux. Et je pense que c'est pas en voulant donner des leçons qu'on sera le sel ou qu'on sera la lumière. Ça serait trop facile d'aller dire aux autres, il y a ça qui va pas chez vous et la parole de Dieu dit. C'est un message qui passe pas devant les incrédules. Par contre, si nous sommes vrais devant Dieu, au travers même peut-être des moments difficiles, il y aura ce témoignage de ce qu'est le vrai sel et la vraie lumière. Je pense souvent à cet exemple d'Abraham à qui on a dit un jour, tu es un prince de Dieu. Ah, il avait eu un bon témoignage ce jour-là. Vous savez dans quel chapitre c'est? C'est Genèse 23, le jour où il ne savait même pas comment enterrer son épouse, dans le dénouement absolu, mais il était connu. Et le sel et la lumière ont été vus ce jour-là. Alors, soyons simples dans la main de Dieu pour vivre en vérité avec le Seigneur ce que nous sommes grâce à Dieu, grâce à ce qu'il a fait de nous. Vivons-le simplement et le sel et la lumière seront manifestés.
Il faut qu'on se souvienne que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a manifesté les caractères de Dieu, lumière et amour. Le Seigneur Jésus n'est plus là et Dieu veut se rendre visible par ceux qui ont cru. Ceux qui ont reçu la vie du Fils, la vie de Dieu, la vie éternelle. Et la question ici, c'est vous êtes, mais voilà, vous allez cacher la lumière, vous allez plus avoir de goût. Alors je prends juste un verset dans l'épître de Jean, une manière de cacher la lumière. Alors on trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 2, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Vous voyez, c'est simple. On est quelque chose. On a cette capacité d'aimer son frère, même de son ennemi. Tiens, on a entendu ce matin. Aimer son ennemi. Et ça vient pas de nous. Ça vient du fait que nous avons reçu la vie divine, la vie du Dieu qui est lumière et amour. Il y a des exhortations. Alors justement, c'est toujours quelque chose que nous allons grandir dans cette découverte, dans cette vie-là. Dans l'Éphésien, Paul il nous dit aussi ceci, marcher comme des enfants de lumière. Et c'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors, éprouver déjà ce qui est agréable au Seigneur, ça nécessite une intimité avec le Seigneur de tous les instants. Mais là, on va trouver trois choses qui nous sont données. C'est consister en toute bonté, justice et vérité. Et quand il y a injustice, lorsqu'il n'y a pas de bonté, lorsqu'il n'y a pas de vérité, et ben là on a mis sous le boisseau. Voilà, je crois que c'est ça un peu le sujet. Donc nous sommes lumière, nous sommes le sel de la terre. Voilà, parce que sur la terre aujourd'hui, Dieu est vécu dans vous et moi, tout simplement.
Et le passage d'Éphésiens que tu viens de lire commence. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est bien le soyez ce que vous êtes, ça a déjà été dit. Et vous êtes. Alors, c'est dans Matthieu, ce n'est pas une exhortation à être la lumière ou à être le sel, c'est votre identité. Vous êtes. Ça, je crois qu'il faut bien s'en souvenir. Puisque tu es ça, c'est comme toutes les épîtres ne sont pas écrites à des pécheurs. C'est écrit à des saints. Vous êtes saints dans le Seigneur. Et quand un saint pêche, c'est plus grave que qu'un pécheur pêche. Ben, ça, c'est normal. Et la pensée de Dieu, c'est que nous réalisions ce que nous sommes pour le montrer, pour le vivre. Non. Et au fond, c'est, ça devrait être, je veux dire, naturel, mais ça découle de source, si on peut dire. Et une chose encore pour la lumière, excusez-moi, dans Matthieu, il est dit en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils vous fassent des monuments à votre gloire, c'est ça ? Donc, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous sommes lumière dans le Seigneur, si nous manifestons cette lumière-là, les hommes sauront qui glorifier. C'est Dieu que l'on montre. Ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux.
Je l'avais déjà raconté, mes parents vont être saoulés de le réentendre à chaque fois, mais je la trouve tellement belle. Moi, quand par exemple je suis dans un transport en commun, très souvent je regarde les gens et ils sont là. Très souvent on les voit dans le tram, en tout cas à Bordeaux, ils voient l'arrêt d'après, ils tirent la tête parce qu'ils savent que c'est l'arrêt du travail. Et là, j'ai un ami une fois qui me racontait que un jour, lui, il arrive au travail très souvent en sifflant, en chantonnant et tout, toujours tout souriant et tout. Et il y a un de ses collègues un jour, presque agacé de voir son collègue sourire et tout alors qu'il arrive au travail. En plus, c'est un prof. Il se dit, il a des élèves casse-pieds. Si ça se trouve aujourd'hui, ça va pas être la joie. Mais comment il fait pour arriver tous les jours joyeux? Il décide de lui poser la question. Il dit, mais comment tu fais tous les jours pour arriver joyeux, chantant et tout, alors que quand on voit notre programme de la journée, personnellement, aujourd'hui j'ai une classe de 30 et c'est pas les plus faciles. Donc comment on fait? Il lui dit, oh ben moi c'est tout simple, je sais ce que je suis, je suis heureux de vivre, le Seigneur m'a créé bien heureux. Il y a son copain, son collègue de travail qui lui fait, mais comment tu peux être bien heureux? Regarde, il fait, mais je suis chrétien, j'ai un bon avenir. Et ça m'a fait penser au verset 13 de Tite 2. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. On peut voir cette joie qu'on doit avoir parce que nous savons où nous allons, nous avons de la joie à témoigner, pas forcément en lançant tout un lot de versets qui peut parler de qui sont les chrétiens, mais seulement par notre apparence, par notre manière d'être. Par exemple, cet ami qui, lui, souriait, était tout heureux d'aller, par exemple, au travail. Donc, soyons bien heureux et avançons avec cet espoir. J'ai un souvenir de les derniers temps où j'étais à Tonnins. Je suis allé voir une amie qui était à la maison de retraite et en très mauvaise santé. Et qui elle était souriante, bien malgré la maladie et autres, était toute heureuse. Et c'est vrai que maintenant elle est partie. Il y a peu de temps, j'ai revu son mari. On m'aurait dit qu'il était veuf. J'aurais dit c'est une blague, c'est pas possible. Il est tout heureux parce qu'il avait la bonne espérance de savoir que sa femme avait rejoint son Sauveur, était toute heureuse. Donc sachons témoigner de ça par notre attitude.
Je propose qu'on voit la dernière question en revenant au chapitre 7 et au verset 15. Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de berger, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. La question, quel est le sûr moyen de reconnaître des faux prophètes s'ils sont déguisés en vraies brebis? Peut-être juste une donnée historique. Il paraît que les bergers de l'époque étaient habillés en habit de brebis, hein, ils se revêtaient de vêtements de laine. Donc ces faux prophètes se font passer pour des bergers, hein, pas pour des brebis. Hein, ils se font passer pour des gens qui dirigent les troupeaux, mais pas pour une simple brebis.
Il y a quand même une réponse dans le verset suivant, me semble-t-il. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand quelqu'un vient avec un enseignement un peu, je ne sais pas comment le définir, peut-être bizarre, mais on n'arrive pas à trouver de fausse doctrine dedans. Ça arrive, hein. Il y a des versets de cité, c'est un peu mis ensemble. Bon, on appuie peut-être un peu plus sur un verset qu'un autre. Est-ce un faux prophète? Ou est-ce quelque chose qu'on n'avait pas compris? Ben, on va au verset suivant, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et quand il y a le fruit de l'esprit, ça produit la paix, ça produit la joie. Mais si un enseignement produit de l'inquiétude, de la tristesse dans le sens, bon, quelquefois on a à s'humilier et à confesser quelque chose, c'est une tristesse à salut, mais une tristesse dans le sens où les gens sont déstabilisés dans leur foi, dans leur doute, dans leur inquiétude, où peut-être cet enseignement va, au lieu d'unir les croyants autour de Christ, va amener des divisions. Alors, ben, il faut prendre le passage tel qu'il est. Les fruits sont là et montrent que c'est bien de faux prophètes.
On a déjà un enseignement dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Au sujet des faux prophètes, au début du chapitre, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient. Et déjà maintenant, il est dans le monde. » Donc c'est déjà un aspect de la réponse.
Oui, comme le disait Élie tout à l'heure, il y a des fois, c'est difficile de discerner entre un enseignement qui est juste, un enseignement selon Dieu, et quelque chose qui est moins juste, disons. Et je crois que la responsabilité de chacun, elle est de connaître la parole. Parce que notre attitude, c'est d'avoir l'attitude des chrétiens de Béret, qui regardaient ce qui était dans la parole et qui jugeait d'après la parole ce qui était exprimé. Donc c'est à nous d'être attentifs à ce qui est exprimé par rapport à ce que la parole dit.
Peut-être que dans les effets, c'est d'abord est-ce que le Seigneur Jésus va être vraiment le centre? Dans Acte 20, il est dit, il est question d'hommes qui annonceront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. Donc, entraîner après une idée, après un ensemble de pensées, après un personnage, après et un chemin qui entraîne en fait une division et non pas un chemin qui entraîne une réunion autour du Seigneur Jésus. Et puis, un autre signe, il me semble, c'est quel est le souci des brebis du Seigneur? Quel souci a-t-il des brebis du Seigneur? Si c'est pour faire prévaloir son point de vue, quelles qu'en soient les conséquences, si c'est pour gagner, je ne sais pas quoi, une certaine aura, quelles qu'en soient les conséquences, il est dans Acte 20, il est dit aussi les loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Dans Jean 10, le Seigneur parle de l'homme à gage. Il voit venir le loup, il s'enfuit,
et le loup, il vient, il s'empare et disperse. Les effets, c'est la dispersion, c'est vraiment le troupeau qui va être détruit. Il me semble que ça fait partie des fruits, attirer des disciples après soi et non pas faire que le Seigneur soit plus grand et soit vraiment le centre, et puis mépriser le troupeau de Dieu au point que ça fait rien s'il y a des divisions, s'il y a des conséquences qui sont terribles. On n'épargne pas le troupeau pour faire valoir ses propres idées. Il y a probablement d'autres points.
Parmi les fruits qui sont recommandés et les reproches que Dieu peut faire aux faux prophètes, aux mauvais pasteurs, bien, nous en avons quelques exemples pratiques dans le livre d'Ézéchiel. Que reproche-t-il au mauvais pasteur? Ézéchiel, chapitre 34, et au verset 3. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Or, vous mangez la graisse, vous vous habillez de la laine, vous égorgez ce qui est engraissé, vous ne paissez pas le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles, vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées, et vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez gouvernées avec dureté et rigueur. Et voilà déjà des signes évidents de ce que peut être un mauvais pasteur, un faux prophète, lorsque on se trouve dans une communauté chrétienne où l'on sent qu'il y a ce genre d'abus. Eh bien, la parole de Dieu, elle est là pour nous mettre en garde, et le Seigneur nous en parle suffisamment dans ce sermon sur la montagne.
Il me semble que dans le « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits », il y a l'idée de juger leur enseignement, de juger leur service. Mais leur vie, parfois, porte aussi un témoignage. Christophe a insisté tout à l'heure sur le fait que le Seigneur Jésus a fait et il a enseigné. Donc leur vie, effectivement, doit être en harmonie avec ce qu'ils enseignent. Peut-être ça, c'est aussi un fruit que nous avons discerné. Voilà, les questions sont finies. Je ne sais pas si un frère a un mot de conclusion sur ces trois chapitres, sur cette journée que nous venons de vivre, à apporter.
Peut-être pas un mot de conclusion sur l'entièreté des trois chapitres, mais j'aime revenir peut-être sur une ou deux idées des béatitudes, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent finalement relativement faciles à suivre. Bienheureux les débonnaires, bienheureux d'avoir faim et soif de la justice, bienheureux de ceux qui sont capables de faire miséricorde, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, bienheureux ceux qui procurent la paix. Mais il y en a d'autres qui sont particulièrement lourdes et difficiles, et je pense aux bienheureux ceux qui sont endeuillés, ceux qui mènent deuil, ceux qui pleurent, ceux qui sont tristes, dans le plus profond de leur être, de leur chair, de leur cœur. Et bien voilà une pensée, une consolation suprême. C'est le Seigneur qui l'a dit, c'est le Seigneur qui le fait. Eh bien, pour ceux qui sont touchés au plus profond de leur esprit, eh bien, il y a une consolation en se confiant en lui, en regardant en lui. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car ils seront consolés. Et puis alors, chose qui nous dépasse, c'est la dernière béatitude. Bienheureux quand on est persécuté et quand on est injurié. Ça ne fait vraiment pas plaisir quand on se moque de nous sur notre lieu de travail, sur notre lieu de vacances, lorsque, comme Jacques le disait tout à l'heure, on entend autour de nous des jurons. Ça ne nous fait pas plaisir, ça nous blesse lorsque l'on entend décrier celui qui pour nous est notre bien-aimé, notre sauveur, notre Seigneur. On injurie, on se sent injurié, on se moque de nous si on ose dire quelque chose. quant à la moralité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement perverti que lorsque l'on ose dire que l'on est contre les mariages homosexuels, en fait, nous ne faisons que refléter ce que la parole de Dieu nous dit. Bien, mal nous en prend, parce que les lois sont ainsi faites que l'on pourrait nous attaquer au tribunal pour paroles discriminatoires. On nous injurie, mais il faut l'accepter comme tel, il faut oser être celle de la terre, lumière du monde. Je le dis pour moi le premier, parce que je ne suis pas toujours conséquent avec moi-même. Bienheureux les persécutés. Est-ce que nous pensons souvent à nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, dans la persécution, des églises chrétiennes qui sont si souvent l'objet d'attaques de l'adversaire, des bombes qui explosent en plein service religieux au Soudan, au Mali, en Afrique en général, cette montée de l'intégrisme musulman radical qui est d'une barbarie atroce, persécuté, et le Seigneur qui vient simplement nous dire, mais bienheureux les persécutés, c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Ben, comme Jean-Luc le disait tout à l'heure, c'est facile à dire, c'est difficile à réaliser, c'est difficile à faire, mais pourtant, les promesses de la parole, elles sont là, et elles sont irrévocables. Puisque le Seigneur le dit, il le fait aujourd'hui, et il le fera demain. Ben, puisons dans ces actes de béatitude toute notre raison de vivre et de nous confier en lui, parce qu'il est la clé véritablement de notre seul vrai bonheur.
Bien, le programme va être un petit peu changé parce que l'heure est là, mais voilà. Et je ne sais pas s'il y a des choses que vous appréciez quand il y a des changements de programme. Je suis de plus en plus heureux quand il y a des changements de programme qui ne dépendent pas de moi. Parce que quand ça dépend de moi, je prends de responsabilité. Et je peux me tromper, plus ou moins complètement d'ailleurs. Mais si les choses me sont imposées, je reste persuadé que le Seigneur le veut comme ça. Voilà. Alors ici, on a vécu un changement de programme, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vivre la demi-heure qui était prévue, comme on l'avait prévu. Bon, c'est pas grave. Je pense que ce qui vient d'être échangé, en tout cas, moi, ça m'a paru très utile. Alors, je vous propose de chanter deux versets de cantique, deux strophes dans le cantique 116, les strophes 1 et 5. 1 et 5 du cantique 116, et puis on aura un petit moment de prière, et puis après, il y aura, avant le départ, quand même quelques boissons et sandwichs, pour ceux qui les ont demandé, en tout cas, ils ont certainement été préparés.